et ses marquants, Jacques Lavergne. Bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Eh bien, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques. Alors cet essai dont je souhaitais vous parler, je l'ai beaucoup aimé, il s'appelle « Post-carbone ». Et on va y retrouver beaucoup de monde dans cet essai. On va y retrouver Gaël Giraud, Carlo Petrini, Stefano Arduini. Et puis on va y retrouver aussi le pape François qui en a écrit la préface. Et il est traduit de l'italien par Jean-Pierre-Élise Rougeau, édité par les éditions de l'Atelier, environ 150 pages. Et il est tout frais puisqu'il date de octobre-novembre 2025. Alors les auteurs, alors c'est un dialogue, hein, donc c'est des auteurs, mais c'est un dialogue entre trois personnes, essentiellement Gaël Giraud et Carlo Petrini dont je vais vous parler, et qu'ils sont un peu relancés, challengés si je puis dire, par Stefano Arduini. Alors Gaël Giraud est français, né à Paris en 70, c'est un économiste de réputation mondiale, hein. Il est docteur en mathématiques et puis et en théologie également, et il est venu à la prêtrise, on va pas dire sur le tard parce que c'est quand même encore un homme jeune, mais il est venu très ultérieurement à la prêtrise. Il est prêtre jésuite français. C'est un spécialiste en économie mathématique. Il a été directeur de recherche au CNRS, économiste en chef et directeur exécutif de l'Agence française de développement de 2015 à 2019. Alors ses travaux, bien évidemment, hein, c'est sa spécialité, porte sur l'économie mathématique, sur la théorie des jeux, sur la finance, il a écrit plusieurs livres, et sur l'énergie. Et puis plus récemment, il a orienté sa recherche vers la question des inégalités sociales et de la transition écologique. Il a enseigné à l'économie université Paris-Sorbonne, à l'université de Strasbourg, d'autres universités françaises et étrangères. Il a également enseigné la justice environnementale à l'université de Georgetown aux États-Unis. L'homme avec qui il dialogue, Carlo Petrini, qui est plus âgé que lui, qui est né en Italie, dans le Piémont, à Bra, est un journaliste, un sociologue, un activiste et critique gastronomique italien. Et il est connu internationalement parce qu'il est le fondateur de ce célèbre mouvement Slow Food, vous en avez certainement entendu parler, créateur aussi de Terra Madre, qui est le réseau mondial qui rassemble des milliers de paysans, de pêcheurs, d'éleveurs et de producteurs dans 150 pays dans le monde. Alors c'est un homme qui est parti vraiment de la base, hein. Il est fils d'une marchande de légumes et d'un cheminot, et puis à l'université de Trente, il va étudier la sociologie, participer activement à la politique. Il a été élu conseiller municipal dans sa ville de Bra. Il est aujourd'hui affilié au Parti démocrate et il traite de la gastronomie et du vin depuis 1977 dans les périodiques et journaux italiens. Et il a participé à un certain nombre d'autres manifestations. Et l'homme qui organise un peu ce débat, qui le relance ou qui l'aiguille, c'est Stefano Arduini. Alors lui aussi italien, né à Pesaro, est un linguiste étudiant la rhétorique et la traduction, et il enseigne la linguistique générale à l'université d'Urbino. Il est diplômé en lettres de l'université de Bologne, hein, grande université. C'était l'université d'Umberto Eco. Il a obtenu son doctorat à l'université de Pise. Alors il enseigne dans différentes universités italiennes et il a même été enseigné d'ailleurs à l'université nationale Mayor de San Marcos di Lima, c'est au Pérou. Je ne sais pas s'il reviendra avec ce qui s'y passe aujourd'hui. Il a été professeur invité à l'université d'Alicante et l'université Automa de Madrid en Espagne. Donc vous voyez, on est en bonne compagnie avec ces trois-là. C'est des gens qui ont du bagage et une importante capacité de réflexion. Alors l'éditeur, je l'ai dit, édition de l'Atelier, ça fait presque un siècle qu'elles existent, qu'elles poursuivent en toute indépendance leur engagement humaniste. en publiant chaque année une vingtaine de livres dans les domaines de l'histoire, des luttes sociales, des religions, de l'économie solidaire et également des enjeux environnementaux. Alors, c'est une héritière de la librairie militante qui avait été créée en 1929 à l'initiative de la JOC, vous savez, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, à laquelle succèdent les éditions ouvrières, les éditions de l'atelier, ont conservé l'engagement humaniste et le principe d'éducation populaire. Et aujourd'hui, les ouvrages publiés continuent d'interroger la réalité, les mutations du monde du travail, l'articulation et le dialogue entre les religions et la laïcité, mais aussi, surtout, de questionner l'économie libérale et ses impacts sur l'environnement. Et devant l'essoufflement du modèle capitaliste, de nombreux livres se mettent en quête d'alternatives, de nouveaux paradigmes. Alors, quatrième de couverture, je vous la livre. Et si changer notre manière de manger était un des gestes les plus radicaux pour transformer le monde? Dans ce dialogue stimulant entre Carlo Petrini et Gaël Giraud, l'alimentation devient le point de départ d'un projet de société post-carbone. Ensemble, ils dressent un constat sans détour. Notre modèle agro-industriel contribue massivement au dérèglement climatique, à la perte de la biodiversité et aux inégalités sociales. Il est urgent de rompre avec cette logique destructrice. Il plaide pour une agriculture respectueuse des écosystèmes et des paysans et rappelle que retrouver le goût, celui des aliments mais aussi celui du lien et du sens, est un levier de transformation majeur. Croisant leurs analyses économiques et sociologiques avec une approche anthropologique et spirituelle, ils affirment que l'entrée dans l'ère post-carbone est l'occasion d'inventer une bifurcation heureuse. Alors, table des matières, je vais vous donner les grandes têtes de chapitre. D'abord, et on le verra tout à l'heure, il y a une préface du pape François, qui, vous le savez, s'est beaucoup investi, notamment sur la thématique environnementale, avec son encyclique Laudato Si, dans laquelle je crois que Gaël Giraud, un des auteurs de ce livre, est intervenu lourdement, on va dire. Donc, préface du pape François, avant-propos de Stefano Arduini, l'homme qui les réunit aujourd'hui, et trois chapitres, la fin d'un monde, un monde nouveau, et vers une nouvelle spiritualité, avec une conclusion. Mais nous allons, avant d'en arriver à cette conclusion, nous allons procéder à quelques lectures. Et alors dans ces lectures, écoutez, je vais commencer par la préface du pape François. Je ne cite pas souvent ce micro un pape, et surtout celui-là, donc il leur a fait une belle préface. Je vous en donne un aperçu. Les deux auteurs indiquent des pistes à suivre pour un développement économique durable et critiquent à sa base le concept de bien-être tel qu'il domine aujourd'hui. Celui sans lequel le PIB est une idole absolue, à laquelle sacrifier tous les aspects de la vie commune, respect de l'environnement, respect des droits, respect de la dignité humaine. Une chose m'a frappé, Gaël Giraud a retracé la façon dont, historiquement, le PIB s'est affirmé comme seul critère d'évaluation de la santé de l'économie d'une nation. Il affirme que cela s'est produit à l'époque du nazisme et que l'industrie des armements en a été le point de référence. Le PIB, pourrait-on dire, est né de la guerre. C'est pour cette raison que le travail des femmes à la maison n'a jamais été pris en compte, car leur engagement ne sert pas à la guerre. C'est une preuve de plus qu'il faut se débarrasser de cette perspective économiste qui semble mépriser le côté humain de l'économie en le sacrifiant sur l'autel du profit absolu. La nature de ce livre est en outre doublement intéressante, d'abord parce qu'il se présente sous la forme d'un dialogue. C'est là une donnée que je crois importante de souligner. Ce qui nous enrichit, c'est la confrontation. Ce n'est pas de rester ferme sur nos positions. C'est la conversation qui devient occasion de croissance, non le fondamentalisme qui barre la route à la nouveauté. Le moment où nous mûrissons, c'est le débat. ce n'est pas la certitude hermétiquement close d'être toujours dans le juste, mais et surtout quand nous parlons de la recherche de la vérité. Voilà, une belle préface du pape François, et c'est un athée qui vous le dit, donc vous voyez, je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est vrai que cet homme, tant, alors je ne vais pas parler du côté religieux, qui n'est pas le mien, mais tant sur le côté de l'immigration que sur l'environnement, a été un grand précurseur. Alors, autre lecture, celle-là, elle est dans la bouche de Carlo Petrini. Chacun de nous doit avoir en vue de manger 50% de protéines animales en moins, et spécialement de viande. On ne peut obliger personne à devenir végétarien, moi-même je ne le suis pas. Mais diviser par deux sa consommation de viande, c'est ce qu'on peut faire tout de suite. Dans les années 60, quand j'étais adolescent en Italie, on consommait en moyenne 40 kilos de viande par an et par habitant, et personne ne mourait de faim. Aujourd'hui, on en consomme 95 kilos, et aux États-Unis, on arrive même à 130 kilos. Alors qu'il est scientifiquement reconnu que c'est justement au milieu du siècle dernier que le meilleur équilibre a été atteint entre qualité de l'alimentation et apport de calories. Ensuite, nous n'avons fait qu'empirer. Et puis plus loin, il nous dit « Diminuer les protéines animales de notre régime, cela veut dire moins de gaspillage, moins de consommation d'énergie et d'eau, moins de pollution, vu que pour commencer, nous, Italiens, nous importons de la viande argentine et du Brésil. » Et là, il nous explique, alors c'est moi qui reprends la parole, que le plus emblématique de cette pratique, c'est la bressao, là, vous savez, ce bœuf salé et séché typique de la Valtellina, qui est labellisé IGP, et autre montagne d'ailleurs du Nord. Et effectivement, ce bœuf-là, eh bien, à 95%, il vient d'Argentine et du Brésil. Donc, vous voyez que les Italiens aussi sont aussi imparfaits que nous sur cette question. Et page 44, je crois, je vais quand même vous citer Gaël Giraud. Ce serait dommage de ne pas le faire. Alors, voyons, je vais le retrouver. Voilà, c'est là. Voilà, Gaël Giraud dans ses œuvres. En effet, le ratio que tout le monde examine, celui de la dette publique divisée par le PIB, n'a aucun sens. Au numérateur, un stock en euros. Au dénominateur, un flux en euros par année. On compare des carottes avec des oranges. Ensuite, la dette publique est généralement libellée à 10, 20, voire 30 ans. Personne ne s'imagine qu'un pays va rembourser sa dette en un an. Donc ce n'est pas le ratio dette publique sur PIB qu'il faudrait considérer, mais plutôt la dette publique divisée par 20 PIB, et là on obtient 8% pour l'Italie, pas de quoi s'évanouir. Mais le plus ironique est qu'en réalité, presque aucun État ne rembourse jamais sa dette publique. Ce secret de Polichinelle doit enfin pouvoir être dévoilé. Presque tous les États roulent leur dette, autrement dit, lorsqu'ils ont une échéance de remboursement, ils empruntent de la main gauche ce qu'ils remboursent de la main droite. Cela s'appelle rouler sa dette et c'est parfaitement légal. Voilà pour la lecture. Alors, on parle de choses, hein, on a parlé du bœuf, on a parlé de l'importation, on a parlé de la dette et du PIB. Vous voyez, toutes choses très modernes et très d'actualité. Alors, conclusion de cet essai, eh bien, elle est brève. Elle est forte aussi, et elle appelle des changements radicaux face à l'échec même, pourrait-on dire, de la faillite, face à la faillite, hein, parce que c'est même plus un échec, du système économique et social actuel. Donc les deux auteurs nous disent, bien, d'abord c'est le temps des choix. Hein, on vit dans un monde globalisé qui accepte tout tranquillement qu'un manager gagne 1000 fois plus qu'un enseignant et qu'un footballeur de première division gagne 1000 fois plus qu'un paysan. Et ça nous paraît normal parce qu'on est immergé dans une idéologie qui nous fait croire que ce sont les étapes nécessaires vers la route du progrès. Alors on nous parle là aussi d'une maison commune. Et puis dans cette conclusion, toujours, on nous interpelle, on nous dit « Est-ce que vous voulez que vos enfants grandissent dans une société où les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches ? Où la compétition, qui est souvent déloyale, est l'unique raison de notre action économique et sociale ?» Et puis ils nous parlent, ces deux auteurs, de notre communauté de destin, qui est un mot fort, en nous disant ben, « En face du lavage de cerveau, de la compétitivité, nous devons jouer la carte de la communauté de destin. » Alors ce livre, bah, il faut le lire. Et pourquoi faut-il le lire? Bah, d'abord, moi, je pense qu'il faut l'offrir à Noël et puis il faut le déguster tranquillement sous le sapin. Vous l'avez compris, c'est un dialogue vif, renseigné, mené par des spécialistes qui jamais ne sont pontifiants. C'est un livre tout à fait édifiant, les propos sont clairs, les auteurs évoquent la catastrophique situation environnementale, ils dénoncent une économie au fonctionnement et au but dépassé, ils nous appellent à changer la relation que nous entretenons avec la nature et le vivant, à retrouver une spiritualité perdue ou laissée aux seuls croyants, hein, parce que la spiritualité, c'est pas uniquement l'apanage des croyants, et puis il nous appelle à instaurer une véritable fraternité universelle. Alors ce ne sont pas des idéalistes ni des rêveurs, parce qu'ils vont nous parler aussi de Trump, de Poutine, de la place essentielle des femmes dans nos sociétés, de l'immigration, et des méthodes agressives de la Chine, et puis bien d'autres sujets encore. Bref, c'est un livre d'une grande facilité de lecture, mais qui va nous inciter, vous inciter à la réflexion, à l'humilité, à des prises de conscience multiples qui aujourd'hui, franchement, sont parfaitement indispensables. Parfait pour nourrir les traditionnelles bonnes résolutions de début d'année, à condition bien sûr de les réaliser. Voilà, c'était « C'est marquant » par Jacques Lavergne, avec à la réalisation Sacha Gauchy. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.